Actu SF, les podcasts.
Bien, mes chers amis, collègues, nous allons reprendre le cours de nos travaux. Bien, mes chers collègues, je vais essayer de faire, pour ce qui me concerne, l'approche du topos de l'imaginal en vous parlant de l'Apocalypse de Jean. Alors, c'est une lecture qui est assez inhabituelle, qui m'est venue en écoutant et en constatant, peut-être, non pas les manques, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement savant, d'un père jésuite qui est le père Simoens, qui est un des grands spécialistes de l'Apocalypse. Et j'ai assisté dans un couvent, un de ses séminaires, qui durait 3 jours. Et il nous faisait 4 conférences par jour, donc c'était un petit peu, ça s'appelait Entrer dans l'Apocalypse. Et puis à chaque fois, je lui posais des questions sur imaginaire, etc. Il éludait les questions. Donc je me suis dit, malgré cette grande science qu'il avait, eh bien qu'il fallait peut-être que je m'attelle à ce que, comment Jean Servier appelait l'invisible. L'Apocalypse de Jean est en effet pour moi une introduction à l'invisible. Et je voudrais citer Jean Servier qui, dans l'introduction à l'homme et l'invisible, justement, écrivait « L'invisible est dans l'homme plus réel, plus sensible que n'importe quelle partie de son corps. L'invisible est autour de l'homme comme un milieu qui enregistre chacune de ses actions terrestres et les réfléchit en conséquences qui seraient inéluctables sans l'action de médiateurs invisibles, eux aussi. » Donc nous sommes tout à fait, hein, Jean Servier ne connaissait pas les travaux de Corbin, ou très peu, ou il n'avait pas eu l'occasion de les... Bien qu'il fréquentait aussi le cercle Eranos, il y fait très peu référence dans ses travaux, mais je pense qu'ils sont tout à fait sur un même champ. Alors, vous savez que l'Apocalypse de Jean est le dernier livre sacré de la tradition des chrétiens, hein, écrit selon les versions entre 70 et 92 après Jésus-Christ. On en connaît des interprétations prétéristes, c'est-à-dire qui se réfèrent aux événements passés que l'Apocalypse serait censé dévoiler, puisque le mot Apocalypse signifie dévoilement. Il y a des interprétations historiques qui serait, elle, relative au dévoilement de l'Église qui nous est procuré par l'Apocalypse, également futuriste, hein, c'est souvent le sens d'ailleurs qui est retenu, et qui concerne l'interprétation ou la révélation d'événements à venir, voire eschatologique, puisqu'il nous parle de la survenue du Messie lors de la fin des temps. Donc l'Apocalypse de Jean me semble constituer un topos de l'imaginal. Toujours neuf, il inclut aussi des formes anciennes. Et d'ailleurs, le père Simoens montre très bien dans ses ouvrages, hein, qu'avec de très nombreuses références bibliques, on peut retrouver que l'Apocalypse de Jean est un condensé de la tradition judéo-chrétienne, et notamment que la prophétie d'Ézéchiel, d'autres, la prophétie Zacharias, etc., eh bien, sont des choses qui ont nourri aussi l'Apocalypse. Mais pour moi, il est d'abord un livre initiatique. Et c'est peut-être ce qui est sans doute le plus polémique de mon affaire, puisque l'homme nouveau qui réintègre la bonne nouvelle réintègre en même temps les états de communion avec le divin, la lumière, en 3 volets, matière, esprit, intégration. Donc il l'est de par la position du narrateur, qui est ancré dans un univers sensible, la grotte de Patmos et son exil, ses intentions propres, qu'il relie au transcendantal, donc par les visions auxquelles il soumet lecteurs et archétypes. Il l'est parce que Jean, visionnaire à Patmos, qui est en exil, hein, donc il est dans une situation psychologique particulière, ouvre notre regard vers les scènes du numineux, du sacré, en nous introduisant au monde imaginal, sur le plan métaphysique et surnaturel. Il l'est aussi parce que dans ce monde étrange, eh bien, nous avons un réservoir inépuisable de symboles qui ont tous leur place, bien assortis les uns aux autres, et participent à la création d'un monde au-delà des apparences. Il célèbre un langage comme capacité de symboliser l'humain dans le monde et dans l'histoire. Puis il est enfin, par ce qu'il nous donne à voir, à nos sociétés écartelées entre séparation des centres et référence implicite à des mythologies universelles, comme l'ont souligné les deux orateurs précédents. Donc, sagesse des mystères que nous allons essayer dans laquelle nous allons essayer de plonger, notamment à travers le regard du visionnaire. Alors, il s'agit bien entendu d'ésotérisme, au sens que l'adverbe grec « eiso » signifie « dedans », hein, l'enseignement ésotérique étant celui qu'il réservait à ses disciples. Il s'agit donc aussi de connaissances traditionnelles qui procèdent par synthèse unificatrice et procèdent d'une herméneutique. Donc on va essayer de traiter l'Apocalypse de Jean et ses manifestations. Et là je citerai Platon, « en cela qu'il a des rapports plus intimes avec la doctrine secrète et le culte supérieur pratiqué dans les mystères ». C'est peut-être un petit peu mon apport personnel, hein, que cette relation au mystère. Alors vous savez que pour Umberto Eco, dans ce type de démarche, plusieurs clés peuvent être invoquées, kabbalistiques, allégoriques et contextuelles. Je me centrerai personnellement sur celle de l'imaginal, car il me paraît que la matière apocalyptique relève de l'imaginal, comme le faisait remarquer André Prévost dans son édition de l'Utopie de Thomas More, qui citait d'ailleurs les livres de la Genèse et de l'Apocalypse. La Bible, écrivait-il, se crée un langage propre où la figure tient lieu de mots. Dans le langage prophétique, l'image devient dominatrice. Elle brise les entraves du syntagme et de la syntaxe pour faire éclater ses virtualités propres. Le rédacteur sacré devient donc créateur d'images. Et de fait, l'Apocalypse de Jean sollicite le lecteur par l'abondance des symboles, le caractère énigmatique de certaines descriptions, la logique associative et onirique de certains enchaînements qui ont pour effet de soutenir l'effort d'une lecture toujours déroutée parce que confrontée à l'étrange et au mystère. Tout est écrit et cependant tout demeure bien au-delà des prises. La révélation visionnaire que Jean reçoit dans une grotte, alors qu'il est enfermé dans l'île de Patmos, représenterait donc pour moi l'initiation à un mystère où les mystères particuliers deviennent universels. Il tient un livre, lequel représente aussi l'imaginaire collectif, et qui est destiné à ouvrir son regard, car il entend quelque chose derrière lui. Et il se retourne, ce qui signifierait que la révélation ne saurait être à sens unique. Elle est aussi réalité permanente, elle surprend, elle est plus que jamais actuelle. Jean Blic écrivait « Les dieux bienveillants, miséricordieux, versent littéralement la lumière aux théurges. Ils appellent à eux les âmes de ceux-ci, ils les unissent à eux et les habitent, bien que liés à des corps, à se séparer des corps et évoluer autour de leur cause éternelle et intelligible. » Alors cette séparation des corps, c'était aussi le débat qu'avait tout à l'heure comment Florence Dravet avec Céline Brion-Portet. Alors pour Henri Corbin, qui s'affiche loin des théories modernes et rationalistes, selon laquelle la connaissance n'est possible qu'au travers de la raison, il existe un troisième organe de connaissance qui est l'imagination active, qui se déploie au niveau du monde imaginal, qu'il appelle encore le huitième climat. Loin d'être considérée comme source d'illusions, elle est l'organe d'accès par excellence aux connaissances divines et au monde spirituel supérieur. Les implications quant au sens et à la valeur de l'œuvre s'en trouvent alors radicalement transformées. D'œuvres fantaisistes et imaginaires, elles deviennent le miroir de vision apparu à une conscience à l'état de veille ou en songe. Elles reflètent des significations dont la portée dépasse le strict horizon de notre monde matériel. La représentation figurative d'événements a lieu dans le monde imaginal, lieu par excellence des expériences visionnaires et de toute initiation. Alors l'accès à ce topos de l'imaginal, c'est notre hypothèse de travail, nous présente le récit d'une initiation à peine démarquée des mystères antiques, dans lequel le point culminant était, vous le savez, la transformation de l'initié en Dieu, soit par l'union d'un être divin extérieur à soi-même, soit en ayant les yeux ouverts à l'existence en lui du soi divin. De fait, dans les mystères, beaucoup d'enseignements venaient de hiérarchies angéliques ou autres, et l'homme devait y apprendre à quitter son corps grossier. Témoignerait de cet accomplissement le verset 22-18 de l'épilogue « Je témoigne, moi, à tout qui entend les paroles de la prophétie de ce livre, Si quelqu'un superposait sur elle, il superposera Dieu sur lui. On ne saurait mieux décrire la dimension initiatique que nous retrouvons dans l'imaginaire de l'Apocalypse. Umberto, je le cite encore, Umberto Eco écrivait « Les initiés savent que pour aller au-delà du premier ciel, il faut employer comme véhicule le corps spirituel, soit être transporté en esprit. » C'est en toutes lettres dans l'Apocalypse. « Je fus transporté en esprit. » Remarque itérative donc dans le texte lui-même. Alors d'abord, regardons le narrateur, Jean 2 ou à Patmos. Je laisse aux historiens le soin de préciser si l'auteur de l'Apocalypse est l'apôtre Jean. Hein, ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Il est indiqué qu'il est serviteur de Jésus-Christ, qu'il vint dans une île appelée à Patmos et qu'il est frère et compagnon de ceux auxquels il s'adresse. Il devint en esprit dans un jour dominical, soit le septième jour de la semaine. La tradition locale rapportée par le pseudo-procore au IXe siècle, les actes de Saint Jean, encore vivante aujourd'hui, ajoute qu'il reçut ses visions dans une grotte, ce qui n'est pas bien entendu tout à fait indifférent à notre propos. Au nord de Cora, en effet, à mi-chemin entre la ville et le port central de Scala, se trouve de fait la grotte de l'Apocalypse. Je n'y suis pas allé personnellement, mais grâce à Google Maps, eh bien, j'ai fait une incursion. Un sanctuaire considéré comme le lieu où Jean aurait vécu, comme assigné à résidence et rédigé son livre. Cette cave creusée dans la roche constitue le sous-sol aujourd'hui d'un petit monastère. En y descendant, on peut voir la couchette où Jean dormait, la pierre où reposait sa tête et une triple fissure dans le mur symbolisant la Trinité et par laquelle Jean aurait entendu la voix divine. Et voilà dans sa grotte. Les grottes ont d'ailleurs une grande importance dans la tradition du christianisme oriental. Une légende relate que le corps de l'apôtre fut enlevé dans des circonstances surnaturelles et devenu très âgé, Saint Jean pénétra dans une cave sous le regard de ses disciples où une lumière intense l'entoura et fit disparaître son corps. Il y a aussi isomorphisme entre le légendaire et le récit lui-même. L'île qui possède dans son monastère de Saint Jean une bibliothèque très précieuse et unique de 900 manuscrits fut avant la période chrétienne le cadre de culte dédié, tiens, à Apollon, Aphrodite et Artémis. Nous aurions donc là un livre d'initiation publié par un apostole, apôtre, mais aussi un envoyé ou un prophète, qui possède nombre de caractéristiques d'un myste en un endroit où les mystères de l'Antiquité ont été remplacés par les mystères chrétiens. Jean soumet délibérément du fait de son inspiration liée au lieu, au topos qui est le sien. Les lecteurs de son époque et ceux du futur un jeu kabbalistique de chiffres et d'interprétations, sur lequel je reviendrai, lesquels relèvent d'une herméneutique sacrée dans la compréhension des mystères. Il construit de fait, dans ce livre, un voyage auquel il se soumet, auquel il invite le lecteur à participer en quittant le monde des apparences, pour entrer dans un monde invisible, là où il n'y a plus de barrière entre terre et ciel, dans une quête progressive de la lumière. Jean est surnommé l'aigle de Patmos, comme vous le savez, en relation avec l'aigle royal, le roi des oiseaux. On a parlé des aigles aussi tout à l'heure. Celui qui vole au-dessus des cimes mystiques. Il voit avec agilité la clarté du soleil, adore et contemple les rayons qui se dégagent du cœur du soleil de justice. Il verra l'agneau face à face dans sa gloire, et ses visions seront comme l'échelle de lumière, échelle de Jacob. Il empruntera l'axe céleste qui le mènera à voir le triomphe du Verbe de Dieu parmi les hommes. Ce triomphe est resplendissant et radieux dans le ciel et sur la terre. Cette victoire précipite la création à se coiffer du nouveau manteau céleste et glorieux, une terre nouvelle et des cieux nouveaux. L'aigle de Patmos est porté sur les ailes du grand aigle royal, le Messie. Les deux ailes du grand aigle sont l'éternité de Dieu qui porte sa créature, l'homme. L'aigle d'or combattra le serpent et ce dernier plongera dans les flammes de l'enfer. Jean est celui qui voit, adore, contemple le joyau de la cité céleste. Il s'agit donc de traiter le texte de l'Apocalypse de Jean et ses manifestations, mais bien entendu ses réceptions à diverses époques, y compris la nôtre, comme révélation. En ceci que, comme l'avait vu Platon dans le banquet, qu'il s'applique à diverses parties du culte des dieux, mais surtout en cela qu'il a des rapports plus intimes avec la doctrine secrète et le culte supérieur pratiqué dans les mystères. l'Apocalypse nous introduit bel et bien au monde imaginal, supraterrestre, lieu intermédiaire entre le sensible et le transcendant, où ont lieu toutes les initiations. Et aussi bien Céline que Florence nous le rappelaient tout à l'heure. Deuxième élément, un chemin initiatique topos de l'imaginal. Donc je vais vous décrire en 3 degrés le cheminement par lequel Jean montre à chaque lecteur qu'il peut devenir un myste. Premier degré, Jean est à Patmos, dans une grotte, on l'a vu. Il devient en esprit. Il entend derrière lui une voix grande comme une trompette, lui disant « Ce que tu regardes, écris-le ». C'est impératif. Il voit une sphère éloignée de lui, mais encore inaccessible. Il se retourne pour regarder la voix et est confronté à une grande lumière. 7 chandeliers d'or, un fils d'homme lumineux en sa vêture et portant 7 étoiles dans sa main. De sa bouche procède une épée à double tranchant, on pourrait dire aussi une épée flamboyante, et son visage, comme le soleil, paraît dans sa puissance. Et Jean tombe comme mort à ses pieds. Si l'on met entre parenthèses les lettres aux 7 églises qui suivent le récit, se poursuit avec une vision, la porte du ciel ouverte, un trône entouré de 4 vivants et de 24 anciens. Le 4, premier élément de l'initiation. Les 4 vivants, lion, taureau, homme et aigle, il est invité à les connaître par les sens, tandis que les anciens se prosternent devant le trône. On lui donne encore à voir le livre et l'agneau, il sera confronté à 4 chevaux, 4 cavaliers et 4 anges. Dans cette première partie du livre, de 1 à 4, chapitre 1 à 4, le nombre 4 est prédominant. Le visionnaire a ici une approche encore spirituelle et distante, c'est l'agneau qui lui permet le couplage vision-oui, tandis que les visions des 4 cavaliers appelés par un vivant indiquent une sorte de règle à suivre en lui conférant des pouvoirs, vaincre le mal, cheval blanc, combattre pour la paix, cheval de feu, pratiquer la justice, cheval noir, tuer le mal, cheval verdâtre. La rupture des sceaux du livre de l'agneau égorgé venant renforcer la signification quand ces ruptures sont ponctuées de la voix des 4 vivants. Et ceci concerne bien le monde matériel. 4 anges se tiennent aux 4 angles de la terre et sont souverains des 4 vents de la terre. On est encore dans la problématique terrestre. Ils sont environnés autour des vivants et des anciens de voix d'anges nombreux autour du trône. Appel vers l'infini. Et il était leur nombre myriades de myriades et milliers de milliers, nous dit le livre 5. Nous avons donc une première assise sur le monde matériel et 2 sens en éveil, l'ouïe et la vue, qui vont permettre à l'apostole le passage du matériel au spirituel. Nous avons répertorié pas moins de 58 visions et 19 auditions dans le livre. Le quaternaire est ici prépondérant, qui permet à l'initié de réaliser en son être le quaternaire moral pour entrer dans la voie initiatique, c'est-à-dire oser abandonner son mode de vie pour répondre à l'appel de l'inconnu quand une porte s'en trouve vers le ciel. Deuxième degré, le 7. Le 7, c'est comme vous le savez, 3 plus 4. Le temps des épreuves. Avant le septénaire, Jean entre dans la sphère des épreuves. Le 7e arcane, écrit Marc Othun, figure l'apothéose de la volonté s'élevant au-dessus des influences cosmiques, de la somme des causes secondes. Il domine les 7 leviers qui dirigent l'énergie dynamique de l'univers. Au quaternaire vient ici s'ajouter le ternaire, avec l'itération du 7. Là, nous ne sommes plus dans une injonction de la vision, mais le voyant participe de celles de fléaux qui vont s'abattre sur la terre au son des 7 trompettes, tenues chacune par un ange. Reflet de la colère de Dieu et de l'eau, elle provoque la dévastation de l'air par la terre et par le feu. On retrouve la dynamique des 4 éléments. Les 7 sceaux. Ici, l'intrigue du livre se déroule autour de 7 sceaux. Leur rupture annonce une initiation parsemée d'épreuves. L'agneau va les ouvrir successivement, ce qui provoque à chaque fois une nouvelle apparition. Il est intéressant de regarder les figures qui les accompagnent. Le premier sur un cheval blanc est un archer, le Sagittaire. Parti à la conquête, il représente la puissance créatrice de l'univers. Le second, sur un cheval rouge, porte une épée symbole de la guerre. C'est pour Jean-Charles Pichon le scorpion qui bannit la paix. mais elle est aussi épée de la vérité, symbole d'Iaïr éthique, dirait Gilbert Durand. Elle divise, renvoyant à la parole du Christ, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Troisième, le cheval noir est un cavalier portant une balance, il annonce la justice. Quatrième, cheval verdâtre, la mort ou la peste, ce serait aussi la puissance religieuse de la grande déesse, toujours chez Pichon. Cinquième, ce sont les âmes égorgées, les martyrs, de leur sacrifice naît une renaissance. Il faut couper la gorge. Le sixième sceau annonce un tremblement de terre, soleil noir, astre qui tombe sur la terre, nombre de catastrophes dont ne seront épargnées que 144 000 personnes, tandis qu'une foule immense se présente devant le trône de l'agneau, dont les quatre vivants et les 24 vieillards triomphent des élus et du dieu solaire. Septième sceau, brisé dans le silence, puis sept anges se tiennent devant Dieu comme les daimonèses des mystères antiques. Sept trompettes leur sont données, un autre ange vient tenant un encensoir, il le remplit du feu de l'autel, le jette sur la terre. S'élève alors coup de tonnerre et tremblement de terre. D'un point de vue mythologique, les sept sceaux révéleraient que l'humanité a bénéficié de sept réveils successifs dans son accomplissement, comme l'initié a besoin d'être réveillé sept fois. Les sept trompettes. Je vis alors, chapitre 8, les sept anges en faction devant Dieu. On leur donna sept trompettes. Elles annoncent des événements catastrophiques vus du ciel. Grêle, feu et sang, une masse embrasée et un mur de sang, l'astre absinthe qui assèche un tiers des eaux. Je rappelle d'ailleurs que en russe, absinthe se dit Tchernobyl. Le soleil, la lune et les étoiles assombris. Un astre tombe, ouvrant les clés de l'abîme à une nuée de sauterelles. Les anges enchaînés sont relâchés, tandis qu'un tiers des 200 millions de cavaliers sont externés. Ça fait quand même beaucoup, hein. Un ange descend, c'est l'épisode du livre avalé des deux témoins. L'ouverture du temple de Dieu, le ciel, l'arche d'alliance. Autre itération du sept, les sept coupes. Un des quatre vivants remet aux sept anges sept coupes en or. On voit bien la chaîne de transmission du vivant vers l'ange, être céleste, qui sont autant d'épreuves. La première est épandue sur la terre, elle ouvre des ulcères. La seconde sur la mer, qui se couvre de sang. La troisième sur les fleuves, également source de sang. La quatrième sur le soleil qui brûle les hommes. La cinquième sur le trône de la bête qui ouvre le royaume des ténèbres. La sixième sur le grand fleuve dont les eaux tarissent. La septième dans l'air où se déclenchent sept éclairs et sept tonnerres. Au final, Babylone s'écroule. Les sept visions, toujours le nombre 7. Apocalypse 19, 21. Elles marqueront, elles, une nouvelle étape dans l'initiation du visionnaire et par conséquent de l'adepte. Passer ces séquences du 7, reflet de la colère de Dieu et de la dévastation de la terre et des eaux, parle le feu et l'air. Jean connaîtra une nouvelle étape. Et nous arrivons au troisième degré. Vous m'avez suivi, 4, 7, 3. La Jérusalem céleste. Alors là, nous ne sommes plus dans 3 plus 4, nous sommes dans 3 multiplié par 4, 12. 4, 7, 12. 3 degrés dans l'initiation qui nous est présentée par l'Apocalypse. Jérusalem, la perfection tétragonale. Quand s'opère la réunion du 4, la création, et du 3, le créateur. On a le 12. Jérusalem et la perfection. Ici, Jean quitte définitivement le monde des apparences. Il n'est plus seulement visionnaire, en esprit. Au chapitre 21, l'avant-dernier, un ange viendra de ceux qui avaient les sept coupes, lui disant qu'il va lui montrer l'épouse, la femme de l'agneau, et il m'emporta, il n'est plus en esprit là, il m'emporta sur une montagne grande et haute, des marques de la prophétie d'Ézéchiel, et il me montra la ville, la Sainte Jérusalem, descendant du ciel auprès de Dieu. Hein, il n'est plus dans la procession, dans la posture où il était, il voyait les choses en esprit, il est toujours en esprit bien entendu, mais il est emporté, il est transporté. Cela signifie que le temps d'épreuve est pour lui terminé, chapitre 22. Et en aucune malédiction, il n'en sera plus, ce qui renvoie à Zacharie 14, 11. Pour finir au prologue, par le témoignage du visionnaire qui dit que Dieu s'est superposé sur lui. Parachèvement de l'initiation. Ici, l'homme nouveau réintègre un état de communion intime avec le divin, point culminant des mystères avec la transformation de l'initié en Dieu. Et je pense que cette problématique de la superposition, hein, on la retrouve aussi dans les religions afro-brésiliennes, bien entendu. Le projet de Jean est ici patent. opérer la réunion du 4, la création, avec le 3, la Trinité, le Créateur, dialoguer sur le monde qui passe et le monde à venir, en opérant un transfert entre les royaumes. Et l'auteur de s'apesantir longuement sur le nombre 12, dans les mesures de la Jérusalem céleste. Nombre des portes, 12, gardées par 12 anges. Mesure de la ville et de ses remparts. 12 pierres précieuses en constituent les fondations, jusqu'à ce qu'en procède un fleuve d'une eau de vie éclatant comme cristal. Les 12 portes sont les 12 voies de la sagesse, et les 12 assises, les vertus inébranlables qui soutiennent celles-ci. Écrit Dominique Viseux. Et la ville quadrangulaire, elle gît, sa longueur est autant que sa largeur. Il mesura la ville avec sa canne et lui trouva 12 000 stades. Et sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Et il mesura son rempart 144 coudées. Chapitre 21-16. Et Marie-Madeleine d'Avis ajoutait, si la Jérusalem est carrée, il s'agit d'un temps qui sera assumé par l'éternité, d'un terrestre transfiguré. Elle symbolise la terre dans le ciel. C'est exactement la démarche que fait Jean venant en 3 degrés successifs de la terre pour aller vers le ciel. Et le 3 divin est ici multiplié par le 4 terrestre pour parachever sa démarche en élévation. Avec la dernière vision de l'Apocalypse, écrit Irène Mingui, on pénètre dans un nouveau cycle dont la Jérusalem céleste est le germe dans un état de proximité directe avec le principe, avec un grand P. Sagesse des mystères, donc, puisque cette occurrence du 4, du 7 et du 12 n'est pas pour nous surprendre dans un texte sacré. Michel Cazenave a montré que le nombre 7 est le plus important dans les civilisations orientales après le 3, dont il est en quelque sorte une extension. Si donc le septénaire est au ternaire ce que le ternaire est à l'unité, il manifeste un principe deux fois développé. Et nous pouvons le vérifier dans l'évolution de la gamme chromatique comme dans celle de la gamme musicale ou encore des planètes. Le septénaire est la mesure des cycles révolutifs, la norme des manifestations objectives et sacrées. Plan de l'univers, phase de développement, création du monde obéissent à la loi du 7. Il semble bien que l'Apocalypse de Jean renvoie à cet énoncé. Attardons-nous sur quelques-uns des thèmes proposés, alors que leur récurrence est considérable. Pour Jean-Charles Pichon, l'itération du 7 indiquerait le réveil des mythes structurant la vie de l'humanité, les mythes antérieurs au christianisme que Jean va décliner et examiner. Les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles, dans la main du Christ, les 7 sceaux qui seraient les 7 réveils successifs du mythe de direction, les 7 anges aux 7 trompettes, ceux du mythe scorpionnaire, les 7 tonnerres du dieu de l'ouragan, les 7 signes, les 7 réveils de la Vierge, les 7 coupes, ceux du dieu solaire, les 7 têtes de serpent indiqueraient l'ère lunaire et le renouveau. Pour le 12, le cube qui symbolise la ville et la splendeur de l'univers, pour le 12, le cube qui symbolise la ville et la splendeur de l'univers ne serait-elle pas, comme le fait encore remarquer Irène Mingui, la pierre cubique symbolique que devrait avoir réalisé chaque franc-maçon lors de son processus initiatique. Il renvoie à la fois à des principes cosmiques et calendaires, les 12 signes du zodiaque et les 12 mois de l'année, et aux sociétés humaines en quête de la terre promise et d'absolu, les 12 sociétés tribus d'Israël, les 12 apôtres, les 12 chevaliers de la table ronde de la quête du roi Arthur, en sont l'incarnation. Dans les sociétés modernes, l'homme croit échapper au déterminisme naturel grâce au développement de la science, fondée sur la raison, laquelle lui donne le sentiment de maîtriser la nature en l'enfermant dans un certain déterminisme, loi naturelle. Maîtriser la nature, c'est ainsi s'assurer le progrès par la capacité de l'homme se positionnant comme être libre échappant au déterminisme. Il en va autrement des démarches initiatiques des sociétés traditionnelles. Les manifestations du temps dans le ciel et les saisons y font toujours retour à leur place attendue, quelle que soit l'échelle où on se positionne, tant qu'elles sont réglées par le cours des astres et celui des saisons. Leurs membres ne se projettent pas dans le futur, la place de l'individu étant subordonnée à l'organisation du groupe social ou genre, à l'agence, la communauté garantissent l'ordre des choses en cherchant à se conformer aux êtres perçus comme supérieurs. D'où l'existence d'une classe première, celle des clercs, brahmanes, druides, chamans, dont c'est la mission qu'ils vont codifier au moyen des rites religieux, lesquels garantissent la stabilité du monde. Durkheim écrivait que les hommes dans la nature ressentent une grande terreur en découvrant l'invariabilité, le retour régulier des phénomènes naturels, accablés qu'ils sont par l'infini qui les environne, le cours inexorable des successions, et tout événement survenant, tel la découverte du feu, est considéré comme miraculeux. En effet, chacun des moments de la durée est précédé et suivi par un temps auquel aucune limite ne peut être assignée. La rivière qui coule manifeste une force infinie, parce que rien ne l'épuise. Bachelard pensait que l'étude des grands mythes reproduise des relations cosmiques. Ils sont la source et la clé de notre inconscient créateur. « Ce que tu regardes, écris-le donc dans un livre », disait l'ange à Jean. Dénonçant le positivisme de la connaissance profane, Gilbert Durand écrivait « La conception symbolique du temps permet à la fois la réintégration du passé et la divination ou prophétie de l'avenir ». Il semble bien que l'expérience extatique de Jean dans le livre de l'Apocalypse nous restitue cette démarche ou la mise sur une voie ascensionnelle qui procède de cette conception. D'abord portée par les mystères de l'Antiquité, elle est en quelque sorte christianisée, je dirais même plutôt judéo-christianisée dans le livre, avec tant de références à l'Ancien Testament qu'elle nous donne à voir une initiation au mystère et fait de Jean un myste, parvenu à la Jérusalem céleste, orienté par les autres vivants, après avoir effronté les épreuves du septénaire, il en contemplera les mystères. Alors il y a des médiateurs qui sont convoqués pour cela. Face aux visions et aux épreuves, Jean n'est pas seul. Et le livre de l'Apocalypse met en évidence des oppositions, les bêtes de la terre et de la mer, l'agneau avec l'aigle. Le livre, en effet, après les sept sceaux marqués par un grand silence dans le ciel et les cavaliers de l'Apocalypse, l'apostole aura la vision du grand initiateur, la tête auréolée d'un arc-en-ciel, dont les membres inférieurs sont des colonnes de feu et qui tient ouvert le livre de l'initiation. Le voyant recevra l'ordre de le dévorer, car la science divine commencera à lui être révélée. Il devra en garder le secret le plus profond. La femme qui a combattu le dragon, enveloppée de soleil, autre médiateur, la lune sous ses pieds, qui est dans les douleurs de l'enfantement. S'ensuit un combat avec le dragon dont elle sort victorieuse grâce aux ailes de l'aigle et au secours de la terre et des eaux, tandis que le dragon s'en va avec les restes de sa semence. Plus tard, en opposition à la femme revêtue de soleil, sera la grande prostituée, montée sur une bête écarlate, chargée des noms de blasphème qui a sept têtes et 10 cornes. Elle sera son double inversé. Les anges, l'angélologie n'est pas absente de l'Apocalypse, en fait elle les présente à chaque chapitre. Analysant les récits visionnaires, Henri Corbin nous a montré comment de l'unité primordiale procède éternellement un premier archange chérubin dont l'être recèle déjà une dualité puisque son propre être est distinct de sa nécessité d'être. L'archange intellige son principe, poursuit-il, il intellige la nécessité de son être en le considérant à partir de son principe. Il en intellige la contingence en le considérant lui-même. De cette triple intellection procède un second archange, tandis que l'origine du plérôme se propage de ciel en ciel jusqu'à la zone nocturnale de la matière ou occident terrestre. C'est dans Avicenne et le récit visionnaire. Pour conclure donc, chaque ciel, chaque épreuve, est ainsi la pensée d'un archange, laquelle est révélée à un pèlerin terrestre. On voit donc bien que l'Apocalypse de Jean a affaire à ces processus d'illumination. Je ne sais pas s'il y a encore une diapo. Non, ben vous pouvez revenir en arrière. On voit bien que l'Apocalypse de Jean a donc affaire à ces processus d'illumination qui en font véritablement un livre où le moi transcendant éveille de degré en degré son âme à une conscience qui lui est en quelque sorte étrangère. À la croisée de l'Orient et de l'Occident, en son île de Patmos, et le lieu, la topologie de la révélation n'est pas indifférente, Jean a sans doute rencontré diverses formes spirituelles qu'il a fait siennes dans un livre qui reste à bien des égards une énigme. Nous avons donc modestement pour notre part tenté de lever un des voiles qui le recouvre et vous voyez bien que c'est forcément inachevé, même si j'ai tenté de procéder à son intellection. Je vous remercie. Je crois que François Wildenberg a demandé la parole.
pas envisagé de la demander, mais puisqu'elle m'est accordée, je vais poser deux questions. La première question, lors du colloque sur le bestiaire arthurien, il était apparu que le cheval était quelque chose qui apparaissait très peu dans toute une série de mythes et de structures de pensée. Et là, il y a quatre chevaux.
Ouais, les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Ouais.
Voilà, quatre chevaux, pas quatre cavaliers. C'est fondamentalement différent.
Oui, vas-y.
Donc, la question que je pose, est-ce que c'est un cas tout à fait isolé ou est-ce que l'on retrouve ça ailleurs, cette apparition du cheval que je n'ai trouvé pratiquement nulle part ailleurs. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est on voit que le discours est totalement structuré. Il y a 4, il y a 7, il y a 12. Donc c'est une véritable tentative de rationalisation, de structuration, de justification. Alors comment expliquer que certains, pour parler de l'irrationnel, ont besoin de, comme ça, rationaliser plein de choses? Est-ce que c'est juste pour des besoins de marketing qui font ça, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons?
Ouais. Alors, sur les chevaux, je pense que le quadrige ailé est également présent dans la mythologie grecque. Le cheval du soleil, notamment. Les chevaux du soleil, oui? Alors là, ils ne valent que par leur couleur. Le blanc, le rouge, le cheval noir et le cheval verdâtre. Hein, c'est-à-dire, c'est la couleur qui va donner ici la signification du cheval. Et chaque couleur renvoie à une signification. Le blanc, c'est la puissance créatrice de l'univers. Le rouge, c'est le symbole de la guerre. Le cheval noir est un cavalier qui porte la justice. Le cheval verdâtre, c'est la mort, la peste. Donc, les couleurs des quatre chevaux, hein, c'est pas le cheval en lui-même peut-être qui est important, que les couleurs auxquelles il renvoie et qui sont des couleurs qui sont initiatrices. Dans un certain nombre de grandes traditions initiatiques, on a toujours aussi un jeu entre les couleurs qui s'opère comme cela. Si je prends l'ordre de la table ronde, par exemple, hein, il y a les différents officiers ont une couleur qui leur est bien assignée. Et ces couleurs sont forcément révélatrices d'une épiphanie, au fond, hein, de la gamme chromatique, hein, qui transporte aussi vers l'extérieur. Les éléments, j'allais dire mathématiques de la gamme chromatique, hein, sont inscrits en procession, en perspective et en progression. Et je pense pas que les couleurs aient été désignées dans l'Apocalypse de Jean au hasard. Hein. Hein, il n'a pas mis le noir avant le rouge, par exemple. Donc il y a une espèce de scansion. Alors en ce qui concerne le fait que la progression 3, 4 et 12 soit une progression rationnelle, je ne pense pas du tout, c'est une progression initiatique, justement. Hein, dans d'autres sociétés initiatiques, la franc-maçonnerie, c'est 3, 5, 7, par exemple. 9, etc. Hein, donc, c'est nous qui interprétons comment ces nombres, hein, comme des nombres qui sont des nombres porteurs d'initiation. Alors, il se trouve que, moi, je constate que dans l'Apocalypse de Jean, hein, on passe de la matérialité au spirituel, en passant par une série d'épreuves qui sont symbolisées par le 7. Hein, mais je ne crois pas que... on a affaire à un syncrétisme, au fond. Hein, un syncrétisme entre les traditions judéo-chrétiennes et puis les traditions anciennes. Mais les mystères, pour le peu qu'on en sait, hein, les mystères de l'Antiquité, eh bien, étaient organisés également de cette façon. Je ne pense pas que ce soit véritablement dans un esprit rationnel. Je pense au contraire, c'est un état d'esprit qui permet de faire communiquer le matériel avec le sensible.
Oui, merci à toi, mon cher Georges, pour ce magnifique exposé qui a beaucoup remué en ce qui me concerne les ménages. Alors, personnellement, je suis d'accord avec toi. Moi, je n'y vois pas du tout une tentative de rationalisation. Ça, je pense que c'est notre vision très, très occidentale, très, très franc-maçonne aussi, hein, géométrie, l'espace, les nombres, etc. Il y a d'autres traditions, d'autres cultures où en fait les nombres renvoient à autre chose qu'à de la rationalisation. Je pense par exemple dans la Kabbale, quand on a des lettres qui sont aussi des nombres, qui sont aussi des énergies, qui sont aussi... on est en plein dans le divin, on n'est pas du tout dans le... Donc moi j'y verrais plutôt une influence de cet ordre-là qu'une influence à l'occidental, je dirais, avec une tentative de rationalisation. Je rejoins Georges là-dessus. À creuser, à mon avis, ces deux pistes, justement, de comment les nombres peuvent renvoyer à deux choses, à mon sens, complètement différentes.
Ouais. Ça pose la question de savoir si Jean était kabbaliste aussi.
Alors...
À cette époque-là, la séparation entre les juifs et les chrétiens est quand même... les premiers chrétiens sont d'abord des gens qui sont dans la religion juive. Hein, c'est sous l'influence de saint Paul que petit à petit, ils vont s'en détacher. Hein, donc, il y a beaucoup de rabbins qui sont... Oui, tout à fait, oui.
En tout cas, ça souligne, à mon avis, qu'il y a deux voies, deux approches différentes. Et en fait, moi, c'est là-dessus que j'aurais aimé revenir. Finalement, en t'entendant, je me disais, on a l'impression qu'on quitte le matériel et qu'on s'achemine vers le spirituel. Et que finalement, le mundus imaginalis, il est là que pour faire passer de l'un vers l'autre. Et ça me semble être, donc de l'humain au divin, et ça me semble être la parfaite illustration de cette autre voie initiatique possible, qui est à mon sens exactement l'inverse de celle que moi j'ai essayé d'exposer avec la franc-maçonnerie, qui elle-même a été beaucoup influencée par la tradition alchimique. Et finalement, on a une voie, la franc-maçonnerie, beaucoup influencée par l'alchimie, qui, je pense, tente une reconduction en terre, comme les alchimistes. Hein. Finalement, on spiritualise, mais après, on reconduit en terre. On n'essaie pas d'aller dans un au-delà. Et l'autre voie, qui est aussi la voie de certains mystiques, où on quitte la terre, mais pour aller ailleurs et pour y rester. Et parfois même avec une sorte de mépris de ce que peut être la terre. Donc, comme si l'esprit était supérieur. Alors que dans l'autre voie, celle de la franc-maçonnerie et de l'alchimie, il ne s'agit pas de rejeter la terre, mais de ne rejeter la terre que lorsqu'elle est grossière et non enfantée par l'esprit, non spiritualisé.
C'est vrai.
Et là, ça me semble intéressant d'avoir ces deux illustrations, celle que j'ai essayé de faire et la tienne, qui sont quand même, je pense, aux antipodes. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus.
Mais je crois que tu as tout à fait raison. Il y a lorsque le texte dit que l'esprit du divin se superpose sur l'adepte ou l'apostole, enfin l'initié, mais il est bien évident que ça le transporte ailleurs. C'était aussi la question qui était inhérente dans la question de la transe, sans doute. Ce matin, hein, et tu as raison de montrer que les deux démarches sont tout à fait alors peut-être lorsqu'il arrive Jean là-haut, après tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a vu en esprit, eh bien il est transporté dans son corps, c'est-à-dire que son corps en quelque sorte est un corps glorieux, et ça c'est dans toute la tradition chrétienne, hein. Que ce soit le Christ, la Vierge, un certain nombre d'apôtres, eh bien ils vont adopter un corps glorieux, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus corporisés en quelque sorte. Et donc l'esprit l'emportait sur la matière. Et toi, tu as tout à fait raison. Ça, c'est vraiment un aspect très, très important comparativement.
Et d'ailleurs, l'importance Pardon, oui. Pardon de rebondir, mais l'importance de la pensée de Platon, alors bon, même si on peut se demander, même si certains interprètent Platon comme, bon, quand le philosophe revient dans la cité, etc. Bon, globalement, chez Platon, quand on se réfère au segment dans la République de la ligne, c'est la même chose. C'est le monde intelligible qui est supérieur au monde sensible, et on essaie d'échapper au monde sensible pour aller vers l'intelligible. Et quand le philosophe redescend, ce n'est que pour expliquer aux autres qu'il faut se détacher du monde sensible, faire comme lui et aller vers le monde des essences, des idées pures, etc. Et ça, Françoise Bonnardel, notamment, a bien montré que toute cette autre tradition qui est non platonicienne, à savoir la tradition alchimique, mais aussi dans une certaine mesure la franc-maçonnerie, sont en quelque sorte la pensée marginale en Occident. C'est...
Oui. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et là, on est véritablement dans une glosse qui est presque une glosse par des sens dualistes, d'ailleurs. Il y a une opposition qui est très... c'est d'ailleurs l'Apocalypse d'après les éléments que j'ai pu lire, l'Apocalypse a été introduite tardivement dans les livres saints chrétiens. Il y a eu un débat où laquelle on hésitait, peut-être justement à cause de son caractère gnostique. Je crois que tu mets l'accent là sur quelque chose qui est très important. Je m'attendais à ce que Florence prenne la parole.
je vais poser une question très simple en fait. Est-ce que tu penses qu'on peut dire que Saint Jean est un homme pris par un état poétique, en fait. Et est-ce que ce ne serait pas simplement un poète qui s'attache à l'écriture d'un texte un peu délirant, on va dire.
Oui, alors...
Et qui ne serait pas vraiment, pas du tout un ésotériste ou... mais plutôt un poète même.
Oui, alors je ne sais pas s'il est... Bon, c'est sûr que son texte a une dimension poétique absolument incontournable. C'est absolument magnifique. Hein. Quand on relit les versets de l'Apocalypse, les uns après les autres, dans les différentes versions qui étaient, le Père Simoine, ça fait une version qui est très proche, qui est un petit peu plus ardue parce qu'elle est très proche du grec. C'est-à-dire il a démarqué ça pratiquement. Mais il y a une version que j'aime beaucoup, c'est la version du maître de Sacy, hein, qui est une version janséniste. Alors, il a pris des libertés avec le texte, mais il va tout à fait dans ton sens. C'est quelque chose de poétique. Maintenant, à ceci près que c'est quand même pétri de culture. Alors tu me diras, un poète, il fait toujours référence à son environnement culturel. Hein, il a toujours, du point de vue de la communication, hein, tout un système référentiel auquel il ne peut échapper. Hein. Mon maître Arduino disait on n'échappe jamais à ses implications. Hein, donc il est impliqué aussi dans la culture géochrétienne, puisque j'ai essayé de montrer qu'il est aussi impliqué dans la culture des mystères. Hein, et le fait de la grotte de Patmos, hein, où on célébrait des mystères antiques, le montre assez. Hein, c'est un discours syncrétique, mais qui a une dimension poétique. Alors, est-ce que cette poésie, est-ce qu'il la maîtrise totalement un prisonnier non conscient? J'ai pas vraiment l'impression. Je crois qu'il y a quand même une construction très... alors non pas rationnelle, comme tu disais, mais une construction dans un sens spiritualiste.
Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Énigme. Bon, tout le monde sait qu'Apocalypse signifie révélation, mais quand on voit cette étymologie très très bizarre du verbe révéler ou révélation, on se dit que le fait de révéler, c'est de voiler une fois encore. Et d'une certaine façon, l'Apocalypse ne cesse de se voiler, de se revoiler. Et c'est peut-être ça son mystère et son secret éternel, hein, celle d'avoir constamment une nouvelle interrogation selon les époques et les civilisations.
Et Tu as raison. C'est vrai que dans une perspective pichonienne, Pichon aimerait montrer que ça, que chaque mythe en recouvre un autre.
Absolument.
Et ça fait référence à une phrase que j'ai entendue dans, un soir dans la bouche de Céline Brion-Porté. C'est le mythe qui est le voile.
C'est une contrepétrie, je crois.
chaque mythe est un voile. Et chaque phrase de l'Apocalypse demeure une énigme pour nous.
D'accord.
Oui, François. Non, avec le micro, parce qu'on enregistre ces débats.
Ne rebondis pas avec le micro. Ça.
Oui, je voulais en parler, puis je n'en ai pas parlé, mais puisque tu tends la perche. Donc, Apocalypse dévoilé, si on prend l'étymologie de dévoiler, le « dé », ça veut dire qu'on enlève le voile. C'est pas qu'on le remet, comme j'écris.
C'est révélation.
C'est le retour.
C'est pas un dévoilement, c'est une révélation.
Oui, non, mais c'est le re, c'est le retour. C'est pas on remet quelque chose. Hein. Donc la question que je me posais, c'est justement cette révélation. On va essayer de dévoiler quelque chose en prenant une autre voie que. En avançant dans une direction qui est autre que celle de regarder ce qu'il y avait derrière. Et je trouve ça très étrange comme démarche.
Ouais, je suis en désaccord avec toi sur ce point. Excuse-moi. Hein, mais la traduction qu'en a fait le Père Simoine, autrement, montre bien pratiquement qu'à tous les versets de l'Apocalypse correspond à un verset de l'Écriture sainte. Que ce soit Élisée, Zacharias, Élie, Ézéchiel, on a à chaque fois une redondance par rapport à l'Ancien Testament. Hein, on pourrait dire que le livre de l'Apocalypse est le livre du Nouveau Testament qui est le plus chargé d'Ancien Testament. Donc il y a bien révélation en termes de redondance.
Très bien.
Mais il y a aussi autre chose, à mon avis.
Bon, quel suspense. S'il n'y a pas d'autres questions, d'abord on va remercier évidemment notre orateur en chef.
Merci de m'avoir écouté.